7 mars, Spaces,
tout à fait.
L'Idyl qui sort un EP début avril, et la dernière sortie de Flying Blanket Mystery qui donc date de ce début de mois de mars.
Tout à fait, et album des Agamemnons fin août. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre sur l'Instagram de l'Idyl pour voir toutes les dates, il y en aura énormément cette année. On passe sûrement par votre ville, donc regardez, c'est même européen, donc faut y aller. On a pareil sur le site de Poser Export toutes les dates de Flying Blanket Mystery qui sont annoncées. Il va y avoir bientôt une annonce de toutes les dates de Louise, parce qu'il y en aura beaucoup aussi cette année. Et pareil pour les Agamemnons à suivre sur leur réseau pour les
prochaines
dates.
Tout un programme.
Ah oui, il y en a partout là. Vraiment.
Pour tous les goûts.
Merci encore à vous trois. Merci à Nicolas et Marianne de rendre cette émission possible à Radio HDR. On va comme d'habitude se quitter en musique et s'écouter le titre For Same Opposite de Four on the Flex. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin, début ou milieu de journée, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de L'Aiguille.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Pieds dans la Lune, la nouvelle émission sur HDR 99.1, émission culturelle qui aura lieu donc tous les derniers vendredis du mois en direct. Toute l'équipe est déjà autour de la table, inutile de vous dire que l'émulation est à son comble. Alors on va vous présenter rapidement cette émission, comment ça se structurera tous les mois. En fait, une émission alors où on abordera notre actualité culturelle, ce sont des choix tout à fait qui seront des choix, nos choix. Une émission où on aura un invité à chaque fois, là, il est déjà présent, ce sera Fred Duval pour son 200e album Metropolia de bande dessinée. Il est déjà avec nous et il pourra intervenir à tout moment, mais on l'interviewera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et puis nos petites chroniques, nos coups de cœur, et puis aussi nos interviews. On ira voir aussi un peu ailleurs ce que les gens pensent de l'activité culturelle sur la région. Alors pourquoi Les Pieds dans la Lune? Rien à voir avec Elon Musk, hein. On n'est pas dans une logique où on va se dire nous on va ravager la planète et puis on sait pas grave, on pourra aller sur la Lune ou sur Mars ailleurs pour aller s'accueillir. On est bien les pieds sur Terre, mais c'est plutôt une référence à la poésie et à la littérature et puis aux rêves, parce que la Lune ça nous fait un peu rêver. Voilà, et donc les pieds sont bien les pieds des des unités rythmiques, voilà, et des vers d'une phrase. Et puis c'est aussi un petit hommage à Edith Fabuena, donc des Valentins, qui est l'autrice du générique, qui a écrit beaucoup de chansons pour Dao, pour Alain Bachung aussi, le dernier album d'Alain Bachung. Voilà. Donc c'est parti pour Les Pieds dans la Lune. On a vu pour vous en avant-première et on vous raconte.
Oui, bonjour à tous. On a vu pour vous un thriller économique, une plongée au cœur des négociations entre les grands groupes industriels et les petits producteurs de lait bio. La guerre des prix est en salle à l'Omnia à Rouen depuis le 18 mars. Spoiler, les petits producteurs ne s'en sortent pas, les consommateurs ne s'y retrouvent pas, les prix sont toujours en hausse. Et les gagnants de cette guerre des prix sont sans surprise les géants de la distribution. On entre dans des huis clos de négociations comme on entre dans une salle d'interrogatoire de garde à vue. C'est très violent et glaçant. C'est Olivier Gourmet qui incarne le négociateur en chef, dur et insensible, aux côtés d'une jeune recrue Audrey, jouée par Anna Girardeau. Elle est tiraillée entre deux mondes, l'enseigne de grande distribution pour laquelle elle travaille et la ferme familiale où elle a grandi dans le pays de Bray. Le reportage de Sonia.
Notre rayon yaourt a perdu 15% de sa valeur en 15 ans. Vous allez venir bosser ici à la centrale.
Je suis pas du tout experte en négociation.
Je suis sûre que vous serez capable de trouver des alternatives aux industriels.
Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale?
Ils veulent miser à fond sur le local. C'est le bon moment pour faire changer les choses.
C'est très bien, tout ça c'est du blabla.
La moitié des clients qui entrent dans nos magasins gagnent moins de 1500 euros par mois.
Vous attendez quoi de moi exactement?
Leur permettre de bouffer sainement à des prix abordables.
Baisser les prix, ça veut dire dégrader la qualité. C'est ce que vous voulez?
Non.
La hausse des prix, c'est aussi pour continuer à bien payer nos éleveurs.
Qu'est-ce que vous appelez bien payer vos éleveurs?
C'est mon frère qui a repris l'exploitation.
Je crois que je vais tout arrêter.
Ah, c'est bien, tu vas faire un boulot à la con alors.
Parce que tu crois qu'éleveur, c'est pas un boulot à la con?
Des fournisseurs comme vous, j'en ai beaucoup.
Ça veut dire quoi?
Coupou sera forcément le plus compétitif. Je pense qu'il faut miser sur un challenger.
Et vous pensez à qui?
Contrairement aux industriels, notre lait n'est pas standardisé.
J'espère que vous savez ce que vous faites.
Du volume, du prix, c'est toujours pareil,
mais
putain,
quoi. Mais pas du tout. Tu veux te faire écraser sans même essayer de te défendre, c'est
putain,
ça?
Mais t'arrêtes, quoi! Sans déconner, tu te prends pour qui?
Faut qu'on soit encore plus agressif sur les prix.
Madame Dumont, moi je vais devoir mettre à la porte des dizaines de personnes.
C'est quoi votre but? C'est d'avoir un petit pouvoir et d'humilier les gens comme ça?
Je vous avais prévenu, c'est un monde à part ici.
Vous avez pas compris? C'est pas une question d'argent.
C'est vous qui n'avez pas compris. À la fin, c'est toujours une question d'argent.
La guerre des prix, c'est une immersion dans le monde de la grande distribution et des milieux agricoles, plus particulièrement dans la filière laitière. Un univers tendu, où les négociations sont parfois violentes. Le film mêle habilement la réalité et la fiction pour raconter une histoire à la fois crédible et dramatique, en s'inspirant des expériences vécues. L'incarnation de la grande distribution et des producteurs du milieu agricole démontre du fossé entre les deux qui semble très difficile et laborieux. Anthony Deschaux a commencé sa carrière dans le domaine du cinéma en étant un comédien. Et justement, cette expérience de comédien lui a servi pour accompagner au mieux ses acteurs.
Et donc sur le tournage, j'ai apprécié prendre du temps avec eux pour essayer de chercher les choses, les mettre dans une zone où ils étaient à la fois en confiance, mais aussi d'essayer de les challenger, de les pousser à aller plus loin, de pouvoir travailler très collaboratif avec eux.
Avant de réaliser son premier film en tant que réalisateur, Anthony Deschaux était donc comédien. C'est surtout à un moment précis que tout a déclenché l'idée d'un film autour de la grande distribution. Il a participé à un séminaire d'acheteurs dans la grande distribution. Là-bas, il y découvre un univers extrêmement dur, où les échanges sont presque violents, très loin de l'image que l'on peut avoir en tant que consommateur. Et il nous l'explique. Il emploie le terme de requin, un milieu où les requins mangent tout cru les milieux agricoles, qui essayent malgré tout de faire ce qu'ils peuvent face aux enjeux du réseau de la grande distribution.
Avec ces fameux box de négociation. français, en fait, et qui est lente et qui est.
Ces confrontations et ces négociations sont assez troublantes, comme dit Anthony Deschaux, et ont été montrées et réalisées dans ce film en suivant l'histoire d'une famille issue du milieu agricole, et plus précisément d'une filière laitière. On peut se demander alors pourquoi ce milieu-ci et pas un autre. Mais au fond, quel est le véritable but de la guerre des prix? Le but serait de montrer des enjeux problématiques sur le système de la grande distribution, mais surtout montrer l'envergure du décor, ce qui se passe derrière, les difficultés dans lesquelles sont confrontés les producteurs agricoles face aux géants de la grande distribution. Dans la guerre des prix, on sent une vraie base de réalité, mais aussi une mise en scène très cinématographique, qui repose sur la fiction de thriller. Comment as-tu su trouver un équilibre entre les deux ?
Je me suis souvent posé cette question-là en me disant est-ce que il faut que je sois vraiment réaliste et que je ne traise pas du tout la réalité des faits, ou est-ce que je peux me permettre d'aller dans la fiction ? Je me suis senti une responsabilité à un moment de ne pas travestir les choses et les faits parce que c'est un sujet important. Donc j'ai finalement trouvé un équilibre qui est de me dire que franchement tout ce que je parfois c'est un peu poussé, parfois aussi c'est rassemblé, c'est-à-dire que j'ai mis un petit peu les anecdotes les plus, on va dire, dures, quoi, pour raconter dans une heure et demie. Dans la réalité, les choses sont plus ciblées et tout, ça passe comme ça tout le temps. Mais en tout cas, je pense être resté fidèle à ce que je peux raconter, à tous les témoins que j'ai reçus, tout en imitant aussi la fiction. J'espère avoir trouvé ce bon équilibre, de ne pas trahir la réalité, pas trahir les faits, mais de l'avoir quand même modelé.
Ce remodelage de la réalité est en équilibre entre fiction et réalité. N'oublie pas aussi le côté relations humaines. Des liens familiaux ont été intégrés dans une histoire où on peut s'identifier, mais aussi qui rajoute un jeu au côté dramatique. Pour ce film, il s'est inspiré d'autres films pour retrouver ses codes, ses inspirations de la famille, les thrillers, les visions agricoles, mais aussi le système économique. Et il puise dans ses inspirations pour la réalisation du film La guerre des prix.
Qui s'appelle Margin Call, parce que c'est dans le monde d'entreprise. C'est un mix de films qui passent dans le monde de l'entreprise, films qui passent dans le monde agricole, toujours avec cette dimension de thriller.
Ces films ont pu l'aider à mieux s'imprégner de l'univers, à la transmettre dans le film, et puis forcément on vient se poser la question du choix du casting, à la sélection des comédiens et comédiennes principaux, que sont Anna Girardot, Julien Frison et Olivier Gourmet.
Pourquoi j'ai fait ce choix? total, j'ai un ado et une jumeau, je trouve ça très voilà, avec sa soeur, j'ai volontairement, je suis allé chercher des acteurs, qui n'avaient pas assez d'acteurs, qui ont plus une image citadine, en disant que je voulais montrer des agriculteurs modernes, et avec une représentation qui ne soit pas juste caricaturale, des physiques terrestres. Donc, ça m'intéressait de casser les codes. Et après, comment je les ai accompagnés, bah, déjà, c'est des acteurs formidables. Donc, il n'y a pas de accompagnés. Mais ce qui est vrai, c'est que Alain et Julien, ils ont dû travailler sur leur appréhension du métier d'éleveur. Donc, on a fait des stages dans les fermes. Ils sont allés à la rencontre d'éleveurs. Ils ont posé des questions, ils ont observé. Et après, ils ont participé, ils ont fait des traites. Ils ont travaillé concrètement pour essayer de comprendre ce qu'était ce métier-là, pour maîtriser les gestes. Donc, on a fait tout un travail comme ça de Bah, je l'ai trouvé grâce à une repéreuse qui m'a proposé différentes fermes et puis je l'ai fait ensuite. C'était très rapidement en visitant cette ferme. J'ai eu envie de tourner ici parce qu'elle cochait toutes les cases de ce que je me représentais. Elle est à la fois authentique, en fait, elle a une histoire dans cette ferme-là. À la fois, elle a aussi une paresse, c'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas une petite ferme misérabiliste, mais on sent qu'il y a eu une histoire et que le temps est passé aussi et que les choses se sont peut-être un petit peu dégradées. Et voilà, tout ça m'intéressait et je trouve qu'il n'y a rien qu'en finalement se faire, sans rien faire. Il y a déjà une émotion qui passe à travers les décors, les murs de cette ferme, donc ça m'a tout de suite ressenti.
Ces acteurs donc véhiculent une forme de modernité de la campagne, cassant les clichés qu'il y ait pu avoir, et puis aussi ce lieu qui est défini très bien la vie agricole en ayant du vécu, du cachet. Anthony Deschaux nous donne un petit message, un conseil pour les spectateurs qui souhaiteraient voir le film ou bien ceux aussi qui l'ont vu.
Déjà, je vais conseiller voir le film parce que ça va certainement aider à avoir confiance sur toutes ces problématiques et sur tous ces enjeux. Et puis après, avoir vu le film, déjà, je pense qu'il ne faut pas que les gens se culpabilisent. Moi, je n'ai pas du tout envie de dire qu'il faut qu'on soit deux fois un film, bien sûr, un consommateur est responsable, mais il ne faut pas qu'il soit coupable. Donc, chacun doit prendre le film, qu'il a envie de le prendre. Réfléchir après, mais les choses se feront naturellement et moi je fais confiance à la fiction, au pouvoir de la fiction qui va certainement créer des émotions chez les gens et après les choses se feront, ils auront envie de changer certaines choses et je suis sûr que ça marchera. Pas de raison d'aller à l'aide dans ce film, que ce soit parce que le sujet les intéresse, mais aussi parce que c'est un film de cinéma et peut-être que même ils ont plus envie d'aller voir un thriller, et qu'en allant voir un thriller qui va les tenir en haleine, ils vont découvrir aussi un sujet.
Voilà le reportage de Sonia qui interrogeait le réalisateur de La Guerre des Prix, Anthony Deschaux. À noter qu'une commission du Sénat enquête en ce moment sur ses méthodes de négociation abusives à la limite de la légalité et sur l'opacité de la définition des prix. La Guerre des Prix, c'est à l'Omnia à Rouen au moins jusqu'à mardi 31 mars prochain. On reste au cinéma avec les films à voir en avril. On a interrogé Jean-Marc Delacruz, programmateur au cinéma L'Omnia à Rouen.
Au mois d'avril, on a, comme c'était notre festival, parce qu'on a un festival LGBT, et donc organisé par une association qui s'appelle Ciné Frémy. Il y a pas mal d'avant-premières avec des films très intéressants. Donc, Hélène Azéra, qui est vraiment super intéressant. Après, compétition au Festival de Cannes qui s'appelle Silent Friends, d'une cinéaste hongroise qui avait eu il y a quelques années de ça, à l'époque avec Caméra d'Or au Festival de Cannes, sur un film qui s'appelait Le 20e siècle. Après, on peut citer des films, un film qui est une comédie qui va sortir le 15 avril, mais qui est un film très bien écrit, avec une comédienne qu'il va falloir vraiment suivre, qui s'appelle Pauline Clément. Le film s'appelle La fille en or. J'ai trouvé que le film était vraiment. Le mois d'avril, c'est un mois un peu transitoire en termes d'exploitation parce que les distributeurs attendent les films de Cannes, les films de mai et des fois on peut avoir des films qui sont entre guillemets moins intéressants. Sinon, j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu, qui est Faire du Manguier et qui est un film très fort. Voilà, c'est un film.
Voilà, c'était les films à voir en avril à l'Omnia. C'était les coups de cœur de Jean-Marc Delacruz, programmateur à l'Omnia. À suivre aussi l'avant-première « C'est quoi l'amour ?», un film tourné à Rouen, à découvrir à l'Omnia le vendredi 3 avril à 20h. La radio HDR 99.1 sera là.
À lire, à écouter, à partager. Et oui, moi, il me tarde aussi d'interroger notre invité Fred Duval sur ce rapport de la fiction et de la réalité. Mais avant, quelques petits coups de cœur de littérature, en commençant par Cécile Coulon. Il faut bien le dire, Cécile Coulon est un peu à l'Auvergne ce que Daenerys Targaryen, est à Game of Thrones et aux Sept Royaumes, la Reine des Dragons, en l'espèce des volcans. Souvent, elle chevauche les trains français, lieu propice pour sonder la nature humaine, volant de dégâts en conférences, de rencontres en propositions artistiques. Quand ce n'est pas le cas, l'autrice, cheval de fer en astrologie chinoise, il n'y a pas de hasard, écrit des romans, des poèmes qu'elle met en partage sur les réseaux sociaux. À 35 ans, elle a écrit 10 romans, dont Une bête au paradis, Seul en sa demeure, La langue des choses cachées et évidemment Le visage de la nuit, le roman qui vient de sortir, un recueil de nouvelles, Sauvage, 4 recueils de poésie, un ouvrage de jeunesse, Les rouflaquettes électriques, quelques essais, dont un petit éloge du running qui devrait intéresser notre invité Fred Duval. Elle a animé avec brio une émission sur Radio France, sur France Inter consacrée à la littérature, une émission intitulée La Source. Dans l'histoire de la littérature, on a affublé des personnes de génie pour beaucoup moins que cela. Bien sûr, évidemment, c'était des hommes. Faut pas non plus. Voilà. En tout état de cause, elle déborde de talent et de charisme. Son dernier ouvrage, Le visage de la nuit, récit intemporel, d'ombre et de lumière, de monstruosité réelle ou supposée, explore la question de l'altérité, de la jeunesse, de la différence repoussée, qui parfois s'auto-bannit. Comme souvent, avec Cécile Coulon, on est plongé dans ce qui nous semble un ailleurs, terrien, rural, rustique, initiatique, onirique, venant d'un autre temps. Pourtant, à bien y lire, on se trouve toujours et de belles manières à lire dans un aujourd'hui et un maintenant très 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 présent. Cécile Coulon est invitée au festival Terre de Parole qui s'annonce du 23 mai au 30 mai en Seine-Maritime. Elle sera présente en Terre Normande le jeudi 28 mai pour un spectacle au théâtre du château, plus exactement 2, à 20h, intitulé « À la place du cœur », et le vendredi 29 mai pour une capsule poétique de 14h30 à 15h30 au sein du Poétobus, invention de la Factory, maison de la poésie, qui sera stationnée place de la Rougemare à Rouen. Pour ceux qui suivent, je pense, le 29 mai sera le jour de la troisième émission des Pieds dans la Lune sur Radio HDR 99.1. Enfin, si la direction ne nous a pas déprogrammé d'ici là. Inutile de vous dire que l'on est prêt à toutes les compromissions, à alimenter tous nos contacts en nounours à la guimauve pour l'accueillir sur le plateau de HDR. En attendant, à lire Cécile Coulon, Le visage de la nuit.
Enfin, elle va venir, c'est sûr. Hein. Pardon.
J'espère. J'en frémis. Alors, aussi... Petit coup de cœur d'actualité, hein, puisqu'il ne vous a sans doute pas échappé qu'il y a eu un vote à l'ONU, un vote magnifique hein, pour reconnaissance de l'esclavage comme cause, enfin comme une des pires choses de l'humanité. Bon, vous avez pu aussi voir qu'un certain nombre de votes se sont pas opérés, ou voire ont voté contre. Hein, voilà, quand même trois pays, bon, Israël, États-Unis et l'Argentine qui ont voté contre, et puis bon, les Européens qui se sont tout à fait bien abstenu, voilà, ils se sont abstenus aussi pour des raisons un peu d'argent, et Haïti, bon, qui est un pays qui sonne comme un paradis, en fait, était aussi un pays qui, où en fait, c'est toujours un peu l'enfer, et c'est un peu l'enfer, pourquoi ? Parce que Haïti, en fait, était un des pays, avec Toussaint Louverture, qui a été le premier à se décoloniser tout seul. Et inutile de vous dire que ça n'a pas été tout à fait simple et que ça n'a pas été un cadeau et que tous les pays occidentaux, notamment la France, hein, sous Charles X, qui est le même qui a envahi l'Algérie, pour mémoire, leur a fait payer très très cher en fait, le prix de cette affaire-là et continue de leur faire payer très très cher, à la fois en argent trébuchant, sonnant et trébuchant, et puis aussi en gestion politique et en relations politiques qui met ce pays dans une misère absolue et dans une ambiance en fait, de guerre civile permanente. Et malgré ça, en fait, la littérature haïtienne est une littérature extrêmement prolixe, extrêmement inventive et extrêmement créative. Ils sont pas rancuniers hein, parce qu'ils écrivent souvent en français, bon, ce qui est quand même bon, plutôt sympa de leur part, voilà, de faire vivre la langue française, les langues françaises. Et donc là, il y a deux ouvrages qui viennent de sortir de la part d'haïtiens, deux magnifiques ouvrages qui traitent du rapport du corps et de tous les deux un peu du raccord du corps dans la société haïtienne et du rapport évidemment à toute la violence de la société haïtienne à travers un peu le corps et la présence du corps dans la société. Le premier, ça s'appelle Dans ce corps, je ne trouverai pas deux fois dans ce corps de Kathleen Mars, un très très bel ouvrage. Et le deuxième, c'est Lionel Truyot, lui aussi un grand auteur haïtien, qui s'appelle Bréviaire des anonymes. Voilà, donc deux romans à lire absolument et qui sont vraiment, voilà, qui traduisent bien aujourd'hui l'état de la société haïtienne, qui est encore une fois une société que l'on maltraite vraiment, vraiment énormément. La guerre. On a un petit peu l'impression que lorsqu'on évoque de nos jours la guerre, ça sonne comme une invitation à faire une soirée Trivial Pursuit Pizza ou une énième partie sur une console de jeu. Drôle d'époque, mortelle désincarnation, troublante incantation, car en effet, il n'y a pas pire abjection humaine que la guerre. C'est une négation de l'humanité, de notre humanité. Et la seule décision que devraient prendre les humains réunis, c'est de l'interdire, purement et simplement. Au lieu de ça, elle prolifère comme la pire des pestes, toujours à l'origine des guerres, les puissants, les riches, qui veulent s'enrichir et qui envoient ceux qui le sont moins se faire découper, tuer, abîmer, pour leur compte en banque. Aujourd'hui, derrière chaque guerre dans le monde, en Palestine, au Soudan, en Iran, en Ukraine, en Éthiopie, il y a comme une odeur de pétrole ou de métaux rares, et des innocents meurent. Face à ce chaos, des artistes se mobilisent et tentent de faire passer un message de paix dans un bruit assourdissant de bottes et de canons. Dans cette perspective, les principaux groupes britanniques de rock se sont regroupés, Arctic Monkeys, Big Thief, Fontaine DC, Pulp et j'en passe, pour offrir une chanson et produire un double album, Help 2, puisqu'ils avaient déjà fait un Help 1, parce que malheureusement la guerre ça s'arrête pas souvent, dont le produit des ventes sera versé à l'association Warchild, qui intervient pour porter assistance aux enfants trop nombreux victimes de la guerre partout dans le monde. Un excellent disque et une très bonne cause. Dans une démarche plus artistique, la grande chanteuse algéro-française, oui, j'ai jamais compris pourquoi on disait franco-algérienne, puisque le F, il est plutôt après le A, quoi. Donc, moi je dis la chanteuse algéro-française, je trouve que c'est mieux, voilà. Swad Massi sort un album, ça se gâte. En effet, ça se gâte un peu. Dans cet album, elle affirme avec talent son engagement pour dénoncer la guerre et les persécutions à justification économique. Dans son style rock, ensoleillé par les différentes rives de la Méditerranée, elle résume sur sa chanson l'équation, ce qui pourrait figurer en exergue de la radio HDR 99.1. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine mène à la violence. Voilà l'équation. Elle nous propose dans son très bel album de marcher vers nos rêves, de pousser les murs et aussi bien de faire attention à notre environnement, comme dans Congo Connection avec Youssapha. La terre, c'est plus une terre, c'est un gisement.
Cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, mais personne qui l'écoute, et nos vies, qu'est-ce qu'elles coûtent? Cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, mais personne qui l'écoute, et nos vies, qu'est-ce qu'elles coûtent? Se détourne. Les dollars s'écoulent et s'écoulent et s'écoulent quand mon pays s'écoule. Les regards se détournent.